Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Paul Curnier, qui publie Prospérité du désastre aux éditions Ligne. L'essentiel de la politique aujourd'hui s'exerce contre l'existence même du peuple, et non plus en son nom, car ce dont il s'agit, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec le peuple pour gouverner des masses sans attache, sans consistance ni liens sociaux, des flux d'atomes humains. Philosophe et écrivain, Jean-Paul Curnier, plus d'une vingtaine de livres. Certains sont des textes de théâtre. Vous écrivez pour le théâtre, vous écrivez pour le cinéma même. Quand vous ne faites pas l'acteur, comme dans Notre musique de Jean-Luc Godard, où vous jouez votre propre rôle. Ça ne doit pas être difficile de jouer son propre rôle.
Non, j'ai été dirigé par Godard et il connaissait parfaitement le personnage, apparemment. Donc il m'a parfaitement dirigé pour que je puisse jouer mon propre rôle. Mais moi, je n'aurais pas su le faire, ça, non.
Il avait lu tous vos livres, Jean-Luc Godard?
Oui, il en avait lu vraiment beaucoup. D'ailleurs, oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est pour l'emprunt qu'il voulait faire au départ dans un texte que j'avais écrit. Et puis... Puis, lorsqu'on s'est rencontrés, il me dit « Mais au fait, je voudrais vous demander autre chose. Que ça, vous accepteriez de jouer dans le film ?» Évidemment, oui, oui, bien sûr. Puis, il m'a dit « De toute façon, je m'occuperai du reste. Je m'occuperai de la caméra. Il n'y aura pas de problème. » Il n'y en a pas eu du tout. C'était un moment très, très agréable, très chaleureux. Puis, ça permettait de se voir tous les jours. Je restais longtemps à Sarajevo avec lui, quand même.
Et ça vous a permis de vous voir, vous aussi.
Oui, c'est ça. Enfin, je me suis vu filmé par Godard. J'ai trouvé que je ressemblais d'ailleurs étrangement à tous les autres personnages filmés par Godard. Mais je ne sais pas su par quel subterfuge on arrivait à ça.
Beaucoup plus important que le théâtre et le cinéma, la radio. Vous écrivez pour la radio. Ce sont, par exemple, les 5 microfictions qu'on a pu entendre sur France Culture en septembre 2013. Dans une réalisation de Jacques Tarroni,
oui.
La vie recommencée.
Oui, oui. Alors, il y a eu plusieurs épisodes, disons, de collaboration avec la radio, avec France Culture. Une portée sur un texte qui s'appelait d'ailleurs 21 tours de la question, qui est un livre que j'avais publié chez Aldante, et qui sont des fictions, si on peut dire, dans le sens que j'ai repris... une chose qui s'entendait beaucoup dans le journalisme de la fin des années 2000, si on peut dire, c'est-à-dire 2010 à peu près, on entendait beaucoup ça. On invitait quelqu'un et c'était toujours une sorte d'enthousiasme pour sa découverte. Bon, j'ai pris ça et avec outrance, quoi, j'ai transformé ça en tableau de l'invité du jour. Voilà. Et ça avait été adapté donc à France Culture. Puis celui-ci est une autre série qui porte là sur les camping, c'est un travail que j'avais fait sur la tentative de recommencer sa vie dans un camping. Mmh. Voilà. Et donc, oui. C'est aigre doux, disons.
Le philosophe fait feu de tout bois.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Il lui arrive même de faire du tir à l'arc.
Oui.
Et récemment, vous avez publié un livre, Jean-Paul Curnier, intitulé « Philosopher à l'arc », qui est publié par un éditeur qui s'appelle Châtelet-Voltaire, et qui a une particularité, c'est, en tout cas pour le moment, de faire des livres qui ne sont pas diffusés.
Oui, ça pourrait me ressembler par certains côtés, d'ailleurs, que le livre reste finalement à l'écart de la diffusion de masse, en tout cas. Mais oui, d'abord, ça peut surprendre un titre pareil, « Philosophie à l'art », qu'en fait, c'est, je crois, réellement de la philosophie, enfin, dans le sens où c'est un peu dans le courant de ce que je fais. Simplement à partir de la pratique du tir à l'arc et aussi de la, tout à coup, de l'abandon de toute résistance à ce qui se passe lorsqu'on commence à tirer à l'arc. Alors, il y a une illustre référence qui est Erigel, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et le livre que j'avais lu en 73 dès sa sortie, qui est un livre que je trouve vraiment extrêmement impressionnant. Et voilà que je me suis trouvé, sans trop y réfléchir, à faire de l'arc il y a une dizaine d'années. À partir de là, c'est une expérience qui est assez forte pour qu'on puisse effectivement, je ne dirais pas penser des choses autres ou nouvelles, mais les penser autrement et de manière nouvelle. Voilà. En particulier la question de donner la mort, la question de la manducation, la question de, par exemple, des questions comme celles que soulève Freud sur l'inquiétante étrangeté ou d'autres questions comme celles que soulève Bataille à Lascaux. Voilà. Et en même temps, c'est un livre qui raconte une expérience qui est celle du tir à l'arc et de la chasse à l'arc, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bord de ce que veut dire tuer pour manger.
Parce que dans la chasse à l'arc, il faut s'approcher le plus près possible de la cible.
Oui. Et pour ça, il faut disparaître un peu, le plus possible. En tout cas, la discrétion doit porter jusqu'à l'insignifiance de soi, ce qui, là aussi, est un classique de la philosophie orientale et aussi de la philosophie occidentale maintenant.
Donc, vous avez un côté Robin des Bois. Et du reste, on vous présente quelquefois comme une sorte d'insurgé.
Je peux comprendre ça, oui. J'ai fait beaucoup de choses pour, sans doute. Oui.
Un insurgé, comme vous le dites vous-même, de quelqu'un comme Pasolini, dans un texte intitulé « La disparition des Lucioles » que vous avez publié dans la revue Ligne. C'était le numéro 18 en octobre 2005. Et Ligne, qui est une revue à laquelle vous collaborez souvent. Du reste, la plupart des textes qui figurent au sommaire du volume dont nous allons parler ce soir, « Prospérité du désastre », ont d'abord paru dans cette revue Ligne, dont vous êtes l'un des membres du comité de rédaction.
Oui, c'est tout à fait exact, oui. Et d'ailleurs, ce volume « Prospérité du désastre » porte comme sous-titre « Aggravation 2 ». Il y a eu une aggravation, donc...
C'était en 2002.
C'est cela, et qui réunissait également une grande partie de textes écrits dans Ligne sur cette même thématique, c'est-à-dire sur un regard, donc, on pourrait dire, de philosophie politique sur l'actualité, mais qui est peut-être aussi un regard de moraliste au sens global, et non pas de moralisateur, au contraire, bien loin de cela, mais de moraliste, dans le sens de regarder comment ça fonctionne, les mœurs, et sur quelle base de détraquage ça s'instaure.
À ces mêmes éditions Ligne, Jean-Paul Curnier, dirigé par Michel Suria, vous avez publié aussi un autre volume intitulé « À vif », avec des textes sur Artaud, Nietzsche, Bataille, Pasolini, Sade, Klossowski, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2006, et « Prospérité du désastre », c'est un titre qui renvoie à Sade.
Oui.
Et à ses prospérités du vif.
Oui, c'est une. Ça ne fait pas qui renvoyer d'une manière homonymique. C'est aussi le jeu que je crois rechercher Sade avec la raison, c'est-à-dire de démasquer ce que la raison camoufle. Voilà. Là, c'est un petit peu ce jeu-là qui est à l'œuvre dans ce livre, c'est-à-dire derrière toute l'argumentation qui réunit d'ailleurs parfaitement la droite et la gauche aujourd'hui sur ce qui semble nécessaire de faire, ce qu'il est absolument impossible de ne pas faire, etc. Il y a là derrière, évidemment, tout ce qui n'est pas dit. Alors ce livre tâche, à sa façon en tout cas, de démasquer cette tentative de se cacher derrière le réel.
Le sujet que vous traitez d'une manière générale dans ce livre, c'est celui de ce que vous appelez la reddition du politique.
Oui. Oui. Oui, je crois qu'il y a une, il y a un couplage qui s'est largement disloqué dans les 30 dernières années, et qui est le couplage entre politique et pouvoir. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir, bon, a priori, ça pourrait être l'exercice du pouvoir qui est concédé, au moins dans les républiques, aux représentants du peuple pour y faire ce pourquoi il a été mandaté, c'est-à-dire ce qu'il a promis, d'une manière ou d'une autre. Donc ça supposerait que l'exercice du pouvoir, et d'abord qu'il y a un pouvoir qui peut être exercé, qui peut être utilisé pour faire une chose ou son contraire, c'est-à-dire pour faire une politique sociale, pour faire une politique libérale, etc. Et que donc ce pouvoir est comme un instrument. Or, le pouvoir n'est pas un instrument. Ça, on le sait depuis Michel Foucault un peu mieux, mais je crois que notre époque a suffisamment donné pour savoir que le pouvoir n'est pas un instrument. Et toute l'histoire moderne, en tout cas, en témoigne. Alors déjà, c'est une première chose, montrer que le pouvoir, qui est plus une tentation qu'un instrument, aujourd'hui, c'est totalement séparé du politique. Que le politique, bon, je le dis un peu rapidement, mais le politique aujourd'hui consiste à organiser autour d'une sorte de ce qu'on appelle la réalité. Là aussi, c'est un concept quand même assez étrange. Pour un philosophe, ça fait toujours frémir quand on entend parler de la réalité. On sent bien qu'il y a quelqu'un qui vient de s'emparer de la chose et qui vient de lui donner la substance et la signification qui lui plaît. Alors la réalité économique, on sait à peu près tous ce que ça veut dire. Donc la question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a un pouvoir ou est-ce qu'il y a une organisation administrative d'un plus gros pouvoir qui est celui de la finance, mais qui n'appartient à personne, lui. Et là, on s'aperçoit que le pouvoir aujourd'hui qui dirige les affaires du monde est un pouvoir qui n'est pas sur le modèle sur lequel on a bien voulu croire que le capitalisme, autre chose, exercé. C'est-à-dire un pouvoir en tant que sujet. Ce n'est pas un sujet. C'est un assemblage de mécanismes dont la seule idée qu'il puisse être dirigé sans conscience devrait totalement effrayer. Or, justement, le rôle des politiques aujourd'hui est de tenter de calmer les foules, de les rassurer sur ce qui est absolument épouvantable. Donc c'est ça, un petit peu, la première remarque.
Quoi. Ce qui fait défaut, c'est la politique.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique dans le sens de l'organisation d'un chemin humain, voulu par les humains et par une majorité, et se saisissant donc d'instruments qui sont ceux de l'organisation, ceux des décisions, ceux des assemblées, pour collectivement se diriger vers une finalité humaine. Ça n'existe plus du tout. Plus personne ne veut en entendre parler. Et parallèlement à cela, évidemment, il y a une autre dimension des choses qui consiste à disloquer ce qui a pu être. Alors, est-ce que c'est un être? Mais en tout cas, on lui a donné une substance dans la République en faisant ce qu'on appelle le peuple souverain. Mais la dislocation du peuple n'est pas une dislocation d'une réalité matérielle, c'est la dislocation d'un référent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave. La question que le peuple ne se montre pas toujours peuple tous les jours, mais il reste une référence, il reste une sorte de, pas seulement de référence, il reste un point d'appui. C'est un, d'une certaine façon, c'est un signifié dans la République, et l'organisation politique étant le signifiant, c'est-à-dire ceux qui est censé exprimer cette volonté populaire. Là, c'est le signifié lui-même qui est mis en cause. Il est mis en cause non pas pour dire qu'il n'existe pas, que le peuple n'existe pas, etc., mais qu'il est profondément négatif. La crise grecque, par exemple, la crise, bon, ce qui malheureusement a atteint un pays aussi cher à nos esprits, à nos cœurs et à notre histoire que la Grèce, et c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'on dit, si vous faites, si vous appelez, si vous consultez le peuple pour résoudre ce problème qui est un problème de crise financière, qui n'est pas du tout seulement un problème de crise économique, eh bien c'est de la démagogie. C'est quasiment d'ailleurs du fascisme, puisque si vous appelez le peuple, vous savez très bien que le peuple n'est pas en capacité de juger des situations pareilles. C'est ça la disqualification du peuple. Aujourd'hui, c'est la même chose. D'une manière globale, on dit le peuple, c'est fait pour acclamer des discours, mais ça ne peut pas être instruit. Alors on invoque les mots de grande complexité, on dit, mais vous rendez compte, mais c'est beaucoup plus complexe, enfin on ne peut pas confier au peuple le soin de juger des affaires européennes, enfin mais est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, je me souviens que président des États-Unis, George Bush disait n'avoir pas lu plus de 4 livres. Et il dirigeait d'ailleurs la puissance la plus importante du monde en n'ayant pas lu plus de 4 livres et tout en parlant de complexité. Là, il y a un paradoxe. Où cet homme a lu énormément et est capable de s'affronter à la complexité, ou alors effectivement, ça n'a rien de complexe. Un âne peut diriger les États-Unis.
Et vous pensez que ceux qui détiennent le pouvoir du marché et de la finance ont lu plus de 4 livres ?
Peut-être 4,5. Peut-être des manuels. Non, je pense qu'effectivement, abandonner, laisser libre cours d'une part au pouvoir automatique et au mécanisme de la finance, ça ne demande pas une très grande intelligence. Il suffit de lire, vous lisez des journaux économiques, en une semaine, on a à peu près compris comment ça fonctionne. Donc ça ne demande pas une très grande intelligence que d'accompagner ce mouvement. Ça demanderait beaucoup plus d'intelligence de savoir comment s'y opposer, peut-être donner à l'économie une finalité humaine, une finalité sociale et... Ça demande certainement beaucoup plus d'intelligence que d'accompagner le rouleau compresseur de mécanismes spéculatifs. Quoi.
Donc le chaînon manquant, c'est la pensée politique.
Oui, la pensée même tout court. Bon, je le dis dans l'endroit où on pratique la pensée, ça peut être paradoxal, mais d'une manière globale, disons, d'une manière générale, la déconsidération de la pensée, c'est quand même une chose extrêmement commune. Quoi. Il suffit d'entendre ce qui est dit du mot intellectuel, par exemple, intello. Toute forme de pensée qui est qualifiée de prise de tête, etc. Enfin, tout ça est négatif, alors qu'il y a simplement 30-40 ans, c'est ce qui était le plus estimé.
Alors, on brade, on solde, et ce qui se trouve liquidé par les temps qui courent, c'est le peuple.
Oui, alors, c'est le peuple à la fois parce que... Parce que il faut lui faire admettre à ce peuple-là, il faut bien qu'il admette qu'une part, c'est pour son confort que tout cela se fait. Et alors là, il faut être prudent. Oui, c'est en même temps réellement pour son confort. C'est-à-dire que c'est un confort, j'appelle ça un confort de halte-garderie ou de... Oui, c'est une infantilisation générale que Pasolini avait déjà largement... constaté, sur laquelle il a beaucoup écrit, ce qu'il appelait l'hédonisme fasciste, dans le sens que c'est un hédonisme, puisque c'est fait pour le plaisir, tout y est conduit apparemment pour le plaisir et pour le moindre effort. Et en même temps, ça demande qu'il n'y ait plus aucune pensée, mais un assentiment à cette espèce de société d'octroi. Donc c'est une société qui ressemble de plus en plus à une situation de veille de Noël. Ce sont des enfants qui sont sages et qui vont avoir des cadeaux, à condition qu'ils soient infantilisés. Donc la destruction du peuple, ça se fait aussi par son infantilisation, par ce rapport où il lui est demandé de moins en moins et où il lui est donné de plus en plus en contrepartie. Et c'est pour moi un point important, cette application que je fais là de Marcel Mauss dans ce livre, d'ailleurs plusieurs fois, parce que ça comptait d'abord beaucoup pour moi, Marcel Mauss, et notamment cette analyse qu'il fait chez les Trobriandais de l'analyse du don. Pour le dire en deux mots, je pense que, et en l'appliquant à la situation contemporaine, lorsque dans une société on peut vivre de plus en plus par des aides et qu'il n'y a pas de contrepartie dans la construction de la société, lorsque les gens, de plus en plus de gens sont écartés de la production des conditions collectives d'existence, ou la production des conditions d'existence collective, ils ne sont plus en état de maturité politique, puisqu'ils ne sont plus en état de se prononcer sur ces conditions d'existence. Ils en sont simplement des bénéficiaires, mais... Alors là, évidemment, d'un point de vue moral, on dira « oui, mais bon, vous dites qu'ils en bénéficient ». Moi, je dis qu'ils sont spoliés de la possibilité d'être adultes. On leur enlève toute la possibilité d'avoir une maturité politique, c'est-à-dire de dire, voilà, je ne suis pas pour rien dans cette société, donc je peux en parler. Cette société n'est pas qu'un biberon.
Voilà. Ouais, mais tout de même, il y a de temps à autre des soulèvements dans les banlieues, dans les cités.
Oui, alors il y a des soulèvements, mais ces soulèvements sont sans doute largement le reflet de cette situation, j'appelle d'écrasement ou en tout cas de dislocation de la notion de peuple. Bien sûr qu'il y a évidemment encore dans l'espèce humaine une volonté de pas tout subir, notamment chez les plus jeunes, enfin chez ceux qui ont encore l'esprit le plus vif et peut-être le moins à perdre. Et aussi parce qu'ils n'ont rien, souvent. Mais On y retrouve quand même des formes qui sont pour moi, qui ne sont pas complètement celles que j'espérerais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme qui pense le collectif, il n'y a pas une forme là qui pense la construction collective d'une société, le devenir d'une société au sens collectif, mais comment dire, qui prend appui surtout sur la consommation, qui prend appui sur la convoitise, qui prend appui sur les aides, etc. Donc en fait, ça reste largement emprunt de ce qu'a orchestré la suite des pouvoirs depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire organiser dans le peuple une lamentation permanente, une récrimination permanente, une revendication permanente, c'est-à-dire une réclamation. Le peuple réclame. Et lorsque le peuple ne réclame pas, qu'il s'enflamme, qu'il brûle des voitures, on l'interprète avec une sémiologie de bazar pour dire qu'en fait c'est une façon de réclamer. C'est-à-dire qu'on voit bien comment le modèle de la réclamation est un modèle de la subordination du peuple avec un pouvoir qui est un pouvoir régalien, qui peut donner ou ne pas donner, calmer ou ne pas calmer, sécuriser ou ne pas sécuriser. Donc voilà, derrière tout ça, il y a donc, à mes yeux, une montée extrême du pouvoir du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir a de plus en plus de pouvoir, non pas pour exercer une politique, mais pour simplement se perpétuer en tant que tel, en tant que domination.
Du peuple, vous écrivez, Jean-Paul Curnier, dans le livre, le peuple n'existe plus. L'individualité sérielle de masse l'a remplacé. Et c'est un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde. Vous faites état d'une controverse avec Nathalie Quintane, par exemple, qui vient tout juste de publier « Descente de médium » chez POL, mais qui avait, il y a 2 ans, chez POL encore, publié un livre intitulé « Tomate », dans lequel elle exprimait son désaccord.
Et dans lequel également elle faisait figurer cet échange épistolaire qui est le nôtre entre Nathalie et moi, et qui est basé d'abord sur une très grande amitié, sur une grande estime aussi réciproque, et je crois sur une égale qualité d'engagement dans l'écrit et dans la parole publique. C'est-à-dire, en fait, qu'en faisant cela et en le rendant public, alors donc, du coup, il est rendu public doublement, dans son livre et dans le mien, ce qui compte dans cette affaire-là, c'est de montrer peut-être que la pensée aujourd'hui n'est pas une affaire seulement de héros, mais c'est une affaire aussi d'amitié, de transversalité, et que ça peut se construire en n'ayant pas forcément raison. Qu'une pensée qui part du principe qu'elle doit avoir raison et qu'elle reste sans réplique possible est une pensée que, personnellement, je fuirais le plus loin possible. Je pense que c'est ça la nouveauté, enfin, en tout cas celle dans laquelle moi je m'engage sans réserve. C'est une pensée qui laisse la possibilité de l'autre côté de la récusation, qui laisse la possibilité d'une revisitation, d'un emploi par celui qui lit pour en faire encore autre chose, et non pas la pensée de l'essayiste héroïque sans contrepartie, sans réplique, sans le professeur, quoi.
Un point d'actualité brûlante soulevé dans le livre, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est celui de l'Europe politique, qui, à vos yeux, est le parfait exemple qui montre à quel point il s'agit maintenant d'en finir avec la représentation politique du peuple.
Oui, peut-être c'est l'Europe est le phénomène politique dans lequel on peut le lire le mieux. D'abord parce qu'évidemment, cette Europe n'a absolument pas du tout été construite pour un projet aussi, entre nous soit dit, aussi beau qui aurait pu être celui d'une Europe des peuples, méritait au moins une bonne dizaine d'années, mais d'organisation, à la fois de débats, de voyages. Je me rappelle avec Jean-Pierre Fay, c'était en 89, nous avions pensé ça, nous avions pensé faire en Europe plusieurs collèges comme ça qui lanceraient des questions, des débats, qui feraient de l'Europe quelque chose qui est porté pas seulement par un désir. Ça nous rappelle encore la consommation, le désir. Alors le politique répond au désir. C'est pas de ça qu'il s'agit. La construction, comment ça se bâtit? Comment on pense une réalité collective inventée collectivement? Comment penser un destin en étant simplement consulté comme dans un supermarché? Enfin, c'est absurde. C'est une absurdité totale. En disant, vous comprenez, nous avons les meilleurs experts, donc on vous demande de voter pour une solution où il y a les meilleurs experts réunis. Mais la question n'est pas l'expertise, la question est la force politique de l'existence des choses. Donc l'Europe, c'est effectivement quelque chose où l'expertise s'est substituée à la pensée, où et l'expertise, encore une fois, est aussi sans réplique, bien entendu, puisque le peuple n'a pas qualité à savoir si, sur les taux d'intérêt ou les taux d'usure, etc., il faut consentir ceci ou cela. C'est absurde. Donc plus on va vers la technique, et moins on peut penser la politique. Donc on parle de plus en plus, c'est comme les automobiles électroniques, finalement. On peut pas la réparer, c'est fini.
Un autre texte du livre parle de la peur de soi, l'horreur de l'homme. Mmh. Et tout se gouverne, pour vous, aujourd'hui, à la peur.
Oui. Je reviens un petit peu, justement, parce que la peur est liée à ce que je... Cette phrase que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'individualité sérielle de masse. Alors, l'individualité sérielle de masse, il suffit de sortir et se rendre compte que jamais on a vu des individus se ressembler autant dans leur comportement, avoir les mêmes envies, comme ils disent, puisque c'est le vocabulaire qui personnellement me fait frémir, mais qui apparemment est le mieux utilisé par la consommation. Envie d'eux, d'ailleurs sans sujet, sans verbe, il y a juste envie d'eux. Envie de détente, envie de crédit, envie de... qui suppose qu'on peut ramener l'état collectif, des comportements collectifs, à des états de stimuli réflexes. Envie de ça, alors nous, hop là. Bon. Alors, ça veut dire qu'un peuple s'était fait quand même de réalité où il n'y avait pas seulement des conflits, il y avait aussi des filiations, il y avait, je ne sais pas, dans le même endroit, on pouvait trouver un qui avait fini par trouver un boulot comme dentiste, qui avait fait des études, et puis les autres, non. Et il y avait des ouvriers, il y avait des employés, il y avait un peu de tout. Mais le peuple, ce n'était pas seulement lié par les liens familiaux et par l'urbanisme, ce n'est pas ça non plus. C'était par la conscience que, collectivement, on n'est pas indemne de ce qui nous arrive. Ça, c'est l'envers des choses, et il est important. Parce que ce qui soulage le peuple, c'est de lui dire « Vous n'y êtes pour rien, brave gens, dans ce qui se passe. » Alors évidemment, on a levé la culpabilité du peuple devant les désastres, et en disant « Mais non, 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 ça, c'est plutôt la faute de ceci, de cela, ça se comprend. » Non, le peuple n'est responsable de rien. Mais du coup, s'il est responsable de rien, il est auteur de rien non plus. Et cette dislocation que j'appelle donc la sérialité individuelle, c'est que tout fonctionne à l'individualité, à la pensée individuelle ou pseudo-choix individuel, mais tous font le même choix et tous pensent la même chose. Alors après, quand surgit un phénomène aussi effrayant que le Front National et le succès qu'il remporte aujourd'hui, on sociologise la chose, on se dit il faut aller trouver des raisons sociologiques. On n'arrive pas surtout à admettre qu'auprès de cette masse qui a été disloquée, je ne fais que reprendre en gros les thèses de Hannah Arendt sur le totalitarisme, c'est-à-dire la disparition des anciens liens et des anciennes contradictions qui constituaient la possibilité d'un peuple, rend chacun seul et nu devant le pouvoir. Et c'est pourquoi le pouvoir a de plus en plus de pouvoir, mais c'est pourquoi aussi, lorsque apparaît un phénomène comme le Front National, on ne veut pas s'avouer qu'un discours pareil, aussi monstrueux soit-il, ou aussi stupide, ou aussi, puisse séduire. Or, il séduit. C'est ce qui explique que ça échappe à la sociologie et qu'on y trouvera des anciens gauchistes dedans, des anciens d'attaque, on y trouvera tout ce qu'on voudra. Et des anciens de droite purs et durs.
Alors j'ai envie de vous poser une question qu'un autre a posée avant moi. Que faire ?
Un pas en avant. On pourrait répondre. Oui, que faire ? Alors bon, moi, ce que j'assigne comme rôle à l'écriture, c'est peut-être déjà de s'opposer à l'effritement de la pensée. C'est donc bon, parce que c'est comme ça et que je suis fait de cette façon et que je ne reculerai plus. Et qu'il n'en a jamais été question, d'ailleurs. Mais bon, mon travail est là. C'est pas mon travail. Mon rôle, ou celui que je peux me donner et que je pense pouvoir remplir mieux qu'un autre, c'est celui-là. Donc de réinjecter dans la pensée des formes, des analyses qui sont sans doute discutables, mais en tout cas qui redonnent une vitalité à tout cela, qui ne cède pas devant l'idée de l'inutilité de la pensée. Ça, pour moi, il n'en est pas question. Céder devant cette chimère qui est la pensée est inutile, les machines et les experts s'occupent du reste. Parce que sinon, c'est exactement ce dont je parle depuis tout à l'heure.
Et à la toute fin de Prospérité du désastre, vous donnez des clés. Ce sont vos 8 discours pour les cités qui ont été écrits dans le cadre d'un opéra expérimental.
Oui, j'ai même pris la précaution dans les quelques lignes d'explication qui précèdent ces 8 discours, de raconter que, oui, moi aussi, je viens des HLM, donc ce n'est pas une invention. Ben, je viens d'abord des taudis de l'après-guerre et ensuite des HLM, qui était un progrès colossal, puisqu'on avait une salle de bain, on avait de l'eau chaude et de la tapisserie au mur, ce qui était proprement de la fiction, enfin, pour nous autres, enfin, pour ma famille, moi. Donc, de quoi s'agit-il là-dedans ? Alors d'abord, il s'agissait d'une... quelque chose qui court un peu dès le début du livre. Je fais référence aux Black Panthers, qui est sans doute le groupe auquel j'accorde, pas pour ce qu'il a pensé seulement, mais pour sa façon d'être, pour son irruption, pour le rire qui le caractérisait aussi, pour son mélange avec la musique pop, entre Jimi Hendrix, Bob Dylan et le free jazz. Pour tout cela, m'a paru et continue à me paraître la chose la plus intéressante politiquement qui se soit passée à la fin du XXe siècle. Et parce qu'ils n'étaient pas vertueux, voilà. C'est-à-dire qu'ils échappaient à la vertu léniniste qui était que l'homme politique, le penseur, doit être une sorte d'exemple à la fois vertueux, à la fois, comment dire, mais vertueux sur tous les plans, les plus réactionnaires même, quoi, si on peut dire. Et que, ils étaient un peu voyous, les Black Panthers, évidemment, et ça ne changeait rien au fait que, sans eux, la condition noire aux États-Unis n'aurait pas connu, effectivement, les améliorations qu'elle a connues. Plus que l'amélioration, un certain bonheur d'être, et qui est plus qu'une amélioration. Et il y a cette phrase de Jean Genet qui m'avait beaucoup intrigué, parce que j'avais trouvé qu'elle était à la fois terriblement pertinente et à la fois comme terriblement marginale dans la préoccupation politique, cette question que se posait Jean Genet sur qu'est-ce que la beauté des révolutionnaires ? Évidemment, si vous regardez Che Guevara, vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Enfin, il est illuminé. On en fait des posters, d'ailleurs, parce que c'est photogénique. Mais c'était pareil pour Lumumba, c'était pareil pour un certain nombre d'autres. Il a cette réponse, être affranchi de la peur. Et ça, je crois que c'est une des choses les plus importantes. Et je crois qu'un mouvement qui a été capable d'affranchir ses semblables de la peur et de les porter à se désintimider face à l'autorité, donc aussi à exercer une certaine autorité, parce qu'on ne peut pas se désintimider de l'autorité si on n'en exerce pas une, c'est quelque chose d'infiniment précieux, qu'on n'a trouvé dans aucun mouvement léniniste, ni dans aucun mouvement, d'ailleurs, de la tradition socialiste révolutionnaire. Alors bon, je parlais de cela simplement parce que c'est à cette occasion, trois ans de travail avec un groupe qui s'appelle LFKS et Jean-Michel Bruyère, donc que j'ai écrit ces discours. Ces discours, c'est la façon de réenvisager justement le refus de céder, le refus de tout consommer. En disant, si on vous offre des HLM, par exemple, mettons, si on vous offre les appartements de HLM, eh ben, il faut d'abord les reconsidérer. Peut-être qu'il va falloir même les détruire. Ce n'est pas parce qu'on vous les offre qu'ils sont bons. Voilà. C'est un condensé à peu près, mais ça concerne aussi l'emploi du langage, etc. Et c'est quelque chose qui n'est certainement pas très couru que ce genre de discours, pour les citer, donc.
Prospérité du désastre de Jean-Paul Curnier aux éditions Ligne et aux éditions Châtelet-Voltaire, philosophée à l'arc. Du jour au lendemain, Romain Lenoir, Clotilde Pivin, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.